Ce n'était plus un jeu, mais un pari avec le destin. Pour occuper son attente, tromper son anxiété, le prisonnier avait besoin de se fabriquer des présages, et il guettait d'un œil de chasseur l'énorme corbeau. Mais celui-ci, comme s'il avait discerné la menace, s'écarta. Les soldats sortaient du réfectoire, le visage tout illuminé. Ils se répartirent en petits groupes à travers la cour pour les jeux, les courses et luttes qui étaient tradition de fête. Pendant 2 heures, le torse nu, ils suèrent sous le soleil, rivalisant de force pour se plaquer au sol ou d'adresse pour lancer des masses contre un piquet de bois. On entendait le constable crier « Le prix du roi, qui nous gagnera un shilling ?» Puis, quand le jour commença de baisser, les hommes allèrent se laver aux citernes, et, plus bruyants que le matin, commentant leurs exploits ou leurs défaites, ils regagnèrent le réfectoire pour manger et boire encore. Qui n'était pas ivre le soir de la Saint-Pierre-Esliens méritait le mépris de ses compagnons. Le prisonnier les entendait se ruer au vin. L'ombre descendait sur la cour, l'ombre bleue des soirs d'été, et l'odeur de vase venant des douves et du fleuve se faisait plus pénétrante. Soudain, un croissement furieux, rauque prolongé, à de ces cris d'animaux qui donnent un malaise aux hommes, déchira l'air devant le soupirail.
« Qu'est-ce cela ?»
demanda le vieux lord de Tchirk dans le fond de la cellule.
« Je l'ai manqué, » dit son neveu. « Je lui ai saisi l'aile au lieu du col. »
Il conservait au doigt quelques plumes noires qu'il contemplait tristement dans l'incertaine lumière du crépuscule. Le corbeau avait disparu et cette fois ne reviendrait plus.
« Ces sottises d'enfants, que d'y attacher importance !» se disait Mortimer le jeune. « Allons, leur approche !»
Mais il était obsédé d'un mauvais pressentiment. Il en fut distrait par l'étrange silence qui, depuis quelques instants, venait de s'établir dans la tour. Aucun bruit ne s'élevait plus du réfectoire. Les voix des buveurs s'étaient éteintes. Le choc des plats et des pichets avait cessé. On n'entendait rien qu'un aboiement quelque part dans les jardins et le cri lointain d'un marinier sur la Tamise. Le complot d'Olspé avait-il été éventé? Et ce silence de la forteresse était-il dû à la stupeur qui suit la découverte des grandes trahisons? Le front collé aux grilles du soupirail, le prisonnier, retenant son souffle, épiait l'ombre et les moindres sons. Un archer traversa la cour en titubant, alla vomir contre un mur, puis s'affala sur le sol et ne bougea plus. Mortimer distingua sa forme immobile dans l'herbe. Déjà les premières étoiles apparaissaient au ciel. La nuit serait claire. 2 soldats encore sortirent du réfectoire en se tenant le ventre et vinrent s'écrouler au pied d'un arbre. Ce n'était pas une ivresse coutumière que celle-ci, qui assommait les hommes comme d'un coup de bâton. Mortimer de Wigmore chercha ses bottes à tâtons dans un coin du cachot et les enfila. Elles glissaient facilement car ses jambes avaient maigri.
« Que fais-tu, Roger ?»
demanda Mortimer de Tchirk.
« Je me prépare, mon oncle. Le moment approche. Notre ami Olspé paraît avoir bien fait les choses. On dirait tout juste que la tour est morte.
« Il est vrai qu'on ne nous a point porté notre second repas, » remarqua le vieux lord avec un accent d'inquiétude.
Roger Mortimer remettait sa chemise dans ses brais, bouclait sa ceinture autour de sa cotte de guerre. Ses vêtements étaient usés, fripés, car on refusait depuis 18 mois de lui en fournir d'autres, et il vivait dans son habillement de bataille, tel qu'on l'avait dégagé de son armure faussée, la lèvre inférieure blessée par le choc de la mentonnière.
« Si tu réussis, je vais rester seul, et toutes les vengeances retomberont sur moi !»
dit encore le lord de Tchirk. Il y avait une grande part d'égoïsme dans la vaine obstination du vieil homme à détourner son neveu de s'évader.
« Entendez donc, mon oncle, voici qu'on vient, cette fois levez-vous !»
Des pas résonnaient sur les dalles de pierre, approchaient de la porte. Une voix appela
« My lord » « Est-ce toi, Olspé ?»«
Oui, my lord, mais je n'ai pas la clé. Votre geôlier, dans son ivresse, a égaré le trousseau, et maintenant, en l'état où il est, on ne peut rien en tirer. Je l'ai cherché partout. »
Du bas-flanc où reposait le lord de Tchirk partit un petit ricanement. Mortimer le jeune eut un juron de dépit. Olspé mentait-il, ayant pris peur à la dernière minute? Mais dans ce cas, pourquoi était-il venu? Ou bien était-ce le hasard absurde, ce hasard que le prisonnier avait tenté d'imaginer toute la journée et qui se présentait sous cette forme?
« Tout est prêt, my lord, je vous assure, » continuait Olspé. « La poudre de l'évêque, qu'on a mêlée au vin, a fait merveille. Ils étaient déjà bien sous et ne se sont aperçus de rien. À présent, ils sont tous engourdis comme morts. Les cordes sont préparées, la barque vous attend, mais je n'ai pas la clé.
De combien de temps pouvons-nous profiter ?
Les sentinelles ne devraient point s'inquiéter avant une grande demi-heure. Elles ont festoyé, elles aussi, avant leur garde.
Qui t'accompagne ?
Hoggle !
On voit le prendre une masse, un coin, un levier, et faites sauter la pierre.
Je vais avec lui, et m'en retourne aussitôt.
Les deux hommes s'éloignèrent. Roger Mortimer mesurait le temps au battement de son cœur. Pour une clé égarée. Et il suffisait maintenant qu'une sentinelle, sous un prétexte quelconque, abandonnât sa veille pour que tout échouât. Le vieux lord lui-même se taisait et l'on entendait sa respiration oppressée dans le fond du cachot. Bientôt, un ray de lumière filtra sous la porte. Holspey revenait avec le barbier qui portait chandelle et outils. Ils s'attaquèrent à la pierre du mur dans laquelle le pêne enfonçait de 2 pouces. Ils s'efforçaient d'assourdir leurs coups, mais même ainsi, ils avaient l'impression que l'écho s'en devait répercuter dans toute la tour. Des éclats de pierre tombaient sur le sol. Enfin, le bloc s'écroula et la porte s'ouvrit.
« Faites vite, my lord !» dit Holspey.
Sa face rose, éclairée par la chandelle, était couverte de sueur et ses mains tremblaient. Roger Mortimer de Wigmore s'approcha de son oncle, se pencha vers lui.
« Non, va seul, mon garçon, »
dit Mortimer de Cherk.
« Il faut que tu t'échappes. Que Dieu te protège. Et ne m'en veuille pas d'être vieux. »
Il attira son neveu par la manche, lui traça du pouce un signe de croix au front.